Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons commencer quelques sermons sur le sacrement de l'ordre. Si nous suivions très exactement saint Thomas d'Aquin, nous traiterions auparavant du sacrement de pénitence, puis de l'extrême-onction, et nous arriverions aux deux sacrements de l'ordre et du mariage. La raison pour laquelle saint Thomas d'Aquin procède ainsi, c'est qu'il étudie tout d'abord les cinq sacrements pour la perfection de l'individu, et ensuite les deux sacrements, non pas pour la perfection de la société, ce serait injuste, parce que le sacrement pour la perfection de la société, c'est, allez, dites-moi, le sacrement de l'Eucharistie, bien sûr. Je vous l'ai dit, lorsque Mgr Lefebvre nous parlait de la chrétienté, c'était très souvent à propos de l'Eucharistie. Donc on a l'habitude de dire que le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage sont des sacrements pour la société. C'est pas tout à fait juste de dire ainsi. Par contre, ce qui est vrai, c'est de dire que le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage donnent une mission dans la société. Alors ça, oui. Une mission qui les met au service, justement, de l'Eucharistie. Qui met en valeur l'Eucharistie. Et qui lui donne sa pleine efficacité. Étant donné que l'Eucharistie est aujourd'hui un sacrement, hélas, très mal compris, que ce soit chez les modernes comme chez les traditionalistes d'ailleurs. J'ai pensé que, en traitant du sacrement de l'ordre juste après l'Eucharistie, cela contribuerait à la mettre en valeur et à mieux vous faire connaître les choses, à mieux vous faire comprendre les choses. Il y aura quatre parties dans ce sermon. Premièrement, la définition du sacrement de l'ordre. Deuxièmement, les conséquences sur ce qu'on appelle l'apostolat d'habitude, je vous expliquerai les choses. Troisièmement, sur la collaboration du prêtre et des fidèles d'ailleurs, avec l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, l'illustration de cette doctrine par une vie de saint. Premièrement, la définition du sacrement de l'ordre. Saint Thomas d'Aquin nous dit, il définit l'ordre par son caractère. Donc je vous rappelle très brièvement, nous avons vu cela pour la messe, le signe seul, sacramentum tantum. Là, le signe pour le sacrement de l'ordre, ça ne sera pas du tout difficile. Il y a des paroles avec l'imposition des mains de l'évêque et avec la tradition des instruments. Tradition, ça veut dire qu'on les remet. La res et sacramentum, la réalité qui est en même temps signe, c'est le caractère. Et troisièmement, la réalité ultime, c'est la grâce. Or, je vous ai dit que le sacrement de l'ordre donnait une mission. Par conséquent, le caractère va être primordial. Bien sûr, le sacrement de l'ordre donne la grâce. Bon, il la donne aux prêtres, bien entendu, pour accomplir fidèlement ses devoirs, sa charge. Bien sûr, c'est une évidence. Donc, la réalité existe bien dans le sacrement de l'ordre. Mais, comme il est une mission, en tout premier, l'élément essentiel du sacrement de l'ordre, c'est le caractère. Or, vous vous rappelez que le caractère est un pouvoir. Et le pouvoir qui est donné au prêtre, c'est un pouvoir sur l'Eucharistie. Et donc, un pouvoir sur le corps physique du Christ crucifié. C'est-à-dire le pouvoir de rendre le Christ présent sous les apparences du pain et du vin, et ainsi de renouveler le sacrifice de la croix. Entre l'Eucharistie et la croix, nous avons vu déjà qu'il y a identité, ça vous vous le rappelez, j'espère, à savoir même prêtre, même victime, même offrande. Alors, même victime, nous avons pour cela insisté avec le Concile de Trente sur la présence réelle. Même offrande, ça c'est tout simplement dû au fait qu'il y a identité entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrifice de notre Seigneur au calvaire. Le Concile de Trente nous enseigne que la seule différence est que celui du calvaire était sanglant et que le sacrifice eucharistique est non sanglant. C'est le Concile de Trente qui dit même prêtre, même victime, même offrande. Même prêtre. Alors même prêtre, notre Seigneur, à travers le sacrement de l'ordre, confère au prêtre ministériel, ministériel ça veut dire serviteur, qui est son ministre, qui le sert. Il confère à l'homme qui devient son ministre de parler en son nom. Et le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon corps ». C'est donc bien que le Christ qui parle, mais de façon à être vu et entendu, il se rend présent, si l'on peut dire, ou il délègue son pouvoir à un homme qui reçoit le sacrement de l'ordre et qui devient prêtre. Il délègue pas n'importe quel pouvoir, ce n'est pas un pouvoir moral qu'il délègue, c'est un pouvoir physique. Un pouvoir sur la matière du pain qui cesse d'être du pain pour devenir la substance du corps de notre Seigneur sous les apparences du pain. Et de même, un pouvoir sur la substance du vin qui cesse d'être du vin pour devenir la présence substantielle du sang de notre Seigneur sous les apparences du vin. La raison de cela, c'est la première chose que saint Thomas dit. Saint Thomas, pour lui, il n'y a pas à prouver que le sacrement de l'ordre soit un sacrement. C'est tellement essentiel à l'Église, c'est une chose qu'il n'a pas besoin de prouver. Il suffit d'ouvrir un catéchisme. Mais il donne la raison. Et la raison qu'il donne, c'est que Dieu veut que dans sa création, il y ait une ressemblance très poussée, non seulement avec lui, mais avec son action divine. Et ainsi, il fait comprendre aux hommes ce qu'est son action divine. Et il est évident que lorsque les hommes sont menés vers l'Eucharistie, vers la croix, par un prêtre humain, surtout quand ce prêtre peut réaliser, puisqu'il est ordonné pour cela, peut réaliser le saint sacrifice de l'Eucharistie, il est évident que le peuple fidèle comprend à travers cette chose si simple la grandeur de l'œuvre de Dieu. S'il ne voyait pas le prêtre, il réaliserait peut-être moins la réalité vraie de l'œuvre de Dieu, et s'il voyait le Christ directement, ça ne serait pas convenable. Alors le bon Dieu a choisi un moyen, l'intermédiaire, à savoir que le prêtre réalise l'œuvre divine. Et cela a été tellement bien voulu dans sa sagesse que vous tous, mes bien chers frères, je ne sais pas si vous y faites suffisamment attention, vous tous, mes bien chers frères, vous êtes persuadés de la grandeur du prêtre, vous êtes persuadés que le prêtre réalise le sacrifice de notre Seigneur, et il est évident que le prêtre humain concrétise dans vos esprits et dans vos cœurs, concrétise une grande foi dans l'œuvre de Dieu. Ce pouvoir sur le corps physique de Jésus-Christ, deuxième partie du sermon, est accompagné d'un pouvoir sur son corps mystique. Oh là là, vous vous rappelez le sermon il y a un peu plus d'un an, je pense déjà, sur le corps mystique de Jésus-Christ. Tous les chrétiens, tous les fidèles vivent de la vie du Saint-Esprit, sont membres du Christ qui est la tête de l'Église. Vous vous rappelez cela? Le corps mystique de Jésus-Christ, c'est toute l'Église formée de tous les bons chrétiens. Pourquoi on dit mystique? Parce que mystique va avec mystère, mystérieux, vous voyez, qui signifie caché, non visible. Et donc il y a un corps visible de Jésus-Christ, c'est son corps physique. Et puis il y a le corps plus ou moins caché, mystérieux. Ce sont tous les chrétiens qui sont les membres de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la tête, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, étant l'âme. Et tout cela forme l'Église, l'Église vivante. Donc il est évident que si Dieu a donné au prêtre un pouvoir sur son corps physique, c'est en vue de ce que le corps physique de Jésus-Christ, crucifié, hein, nous l'avons suffisamment vu, atteigne, touche tous les chrétiens et même tous les hommes, de tous les lieux et de tous les temps. Et donc la fonction du prêtre, à ce titre du pouvoir sur le corps mystique, c'est de mener les âmes au pied de la croix à travers la messe. Et c'est là que nous voyons que Mgr Lefebvre a été un prêtre extraordinaire. Car il parlait de la croix avec une conviction, une foi, une simplicité, une évidence telle que vraiment il nous mettait au pied de la croix. Il faut ne pas être entré dans le mystère de la foi, être resté à des considérations matérielles ou égoïstes, pour ne pas avoir pénétré cette doctrine de Mgr Lefebvre et ne pas l'avoir mise en œuvre. C'est hélas fréquent parce qu'aujourd'hui, bref, c'est la crise. Les esprits sont appesantis. Alors pour cela, pour mener les fidèles au pied de la croix, le prêtre enseigne, il donne la foi, il parle de la croix, il parle de Jésus-Christ. Puis il donne les autres sacrements, à commencer par le baptême. Et quasiment la première cérémonie du baptême, c'est soit marqué du signe de la croix sur ton front et dans ton cœur. C'est sa première rite. Après le baptême, eh bien, il va donner les autres sacrements, la confirmation, enfin c'est l'évêque, mais nous verrons cela en détail après, la répartition des charges entre l'évêque et le prêtre. Et puis, il célèbre l'Eucharistie, il la donne par la communion, et enfin, il a un pouvoir de direction, mais qu'il faut bien comprendre, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas le moment, mais le pouvoir de direction, c'est essentiellement le pouvoir de former une chrétienté. Le prêtre est vraiment celui qui donne vie à la chrétienté, qui forme la chrétienté. Dans un village, le prêtre, c'est celui qui, oui, forme la chrétienté, lui donne vie. Troisième partie du sermon, on ne peut comprendre les deux premières parties, particulièrement la deuxième, si on n'a pas compris que Dieu est le premier acteur de l'œuvre du salut. Le prêtre, par la célébration du sacrifice eucharistique, fait que cette action atteint les lieux et les époques dans le monde entier. Mais vous voyez, il n'y a pas d'un côté l'action de Dieu qui resterait relativement inachevée, puis de l'autre l'action du prêtre qui serait un personnage officiel et qui viendrait compléter ce qui manque au ministère du Christ, c'est-à-dire qui amènerait les âmes de lui-même. Parce que, étant un personnage officiel, Il aurait ce pouvoir, mais comme venant de lui-même. Il y a un pouvoir personnel qui lui serait donné par Dieu, mais qui resterait très personnel. Il faut aller beaucoup plus loin que cela dans l'identification de l'action du prêtre à l'action de Dieu. Dieu, par le sacrifice de la croix, a gagné les mérites, les grâces pour toucher tous les hommes de tous les lieux, à toutes les époques. Et il charge le prêtre de prolonger cette action, mais en son nom, ceci est mon corps. Et de même que ceci est mon corps, dit le prêtre, de même c'est encore Dieu qui agit à travers lui quand le prêtre amène les âmes au pied de la croix. Certes, son action est beaucoup plus personnelle que lorsqu'il consacre le pain et le vin, où il s'efface, on peut dire quasiment totalement. Il n'empêche que Dieu agit le premier et que le prêtre entre dans l'œuvre de Dieu, entre dans les vues de Dieu. Et après cela, lorsque par son ministère, il dispose les âmes à entrer dans cette œuvre de Dieu, il ne fait que prolonger l'efficacité de la messe. On le voit très bien lorsque les missionnaires pénètrent la Papouasie. Une des premières choses qu'ils font, c'est de célébrer la messe. Et on voit, on a des photos de ces messes célébrées sous une petite hutte, un petit abri de feuilles, devant des papous étonnés, saisis par la majesté du rite, mais étonnés, qui regardent de l'extérieur. Et puis, l'œuvre de la croix les atteint à travers la célébration du sacrifice eucharistique. Et alors après ça, les prêtres prennent contact, se mettent en rapport avec les fidèles, avec les futurs fidèles, les papous, et les font pénétrer dans ce mystère. Et quand cela est fait, on voit des papous qui n'ont pas changé à l'extérieur. Ils ne se sont pas modernisés, ils n'ont toujours pas d'hôpitaux, ils n'ont pas eu le développement des sciences sociales, mais ils ont le trésor de la messe. Ils ont le trésor du sacrifice eucharistique. Ils tiennent Dieu qu'ils reçoivent dans leur corps par la communion eucharistique. En distribuant la communion, vous voyez, le prêtre parachève l'œuvre de Dieu. Ah, il faut que je me dépêche là. Tel est le prêtre voulu par Mgr Lefebvre. Le problème, beaucoup de prêtres modernes ont fait passer l'action du prêtre avant l'action de Dieu, et ils ont fait passer le ministère avant la célébration de l'Eucharistique. C'est pourquoi tant de prêtres modernes sont perdus. Ils ne savent plus ce qu'est un prêtre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le définissent plus par rapport à la croix et par rapport à l'Eucharistie. Si, par rapport à l'Eucharistie repas, avec ça. Et puis, c'est un problème pour des prêtres dits traditionnalistes mais ralliés, qui considèrent l'Eucharistie essentiellement par rapport à son rite et qui négligent de disposer les âmes à la croix. Les uns n'ont pas bien compris ce qu'était le sacrifice eucharistique et disposent les âmes, mais ils ne savent pas très bien à quoi. Et puis les autres sont supposés avoir mieux compris ce qu'était le sacrifice eucharistique, mais d'une part, ils le réduisent au rite, comme si le rite était magique, et puis ils ne disposent pas les âmes à la croix. Ils ne donnent pas, comme tant d'oraisons du missel le demandent, l'amour des choses d'en haut et le mépris des choses d'ici-bas, le mépris des biens terrestres, qui est le seul moyen d'arriver à la croix. Alors, nous essayons et demander à Dieu d'avoir des prêtres qui soient comme les a voulu Mgr Lefebvre et qui soient ni des animateurs socio-spirituels, ni des, comment dire, ni des fonctionnaires peut-être. Quatrième partie du sermon, une illustration de cette doctrine, c'est le Padre Pio. Le padre Pio, un prêtre dont tout le monde voit qu'il est prêtre, qui quasiment n'est jamais sorti de San Giovanni Rotondo, qui est vraiment l'homme du sacrifice à ce point qu'il porte les stigmates, mais cela aussi c'est un miracle que le bon Dieu a voulu pour nous faire comprendre ce qu'est le prêtre. Le padre Pio s'identifie avec Jésus en croix. Il célèbre la messe et ce faisant, il montre l'importance du sacrifice eucharistique. Du coup, les âmes sont par lui plongées dans ce sacrifice. Vous voyez, son confessionnal, il est célèbre pour avoir été un confesseur extraordinaire. Son confessionnal n'était pas le lieu où les péchés sont remis essentiellement. Bien sûr, les péchés étaient remis. C'était surtout le lieu où l'on était lancé vers le sacrifice de Jésus-Christ à travers l'Eucharistie. Et où l'on était lancé vers l'amour du Christ en croix. Tout le monde a compris que le Padre Pio, c'est cela. Et à travers cela, tout le monde a compris ce qu'est le prêtre, et tout le monde a compris que le prêtre montre la croix, et que, bien sûr, il y a un travail à accomplir. Le Padre Pio n'est pas sorti du couvent, mais il a énormément confessé. D'autres sortent du couvent pour prêcher. Mais cela est relatif au sacrifice eucharistique et n'a de valeur que dans la mesure où cela lance dans l'amour profond, réel de Jésus crucifié. Voilà pourquoi la Très Sainte Vierge est la mère, le modèle du prêtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.